Bonsoir, bienvenue dans Ondes Noires, l'émission Polar, la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Bonsoir à tous, effectivement, bienvenue dans Ondes Noires. Eh bien aujourd'hui, on a le temps pour un sommaire rapide, donc nous commencerons par parler d'un festival, pour continuer par une nouvelle collection, et puis des conseils de romans drôles, cocasses, noirs, inquiétants, des drames et des comédies, qui sont au menu de ce nouvel épisode d'Ondes Noires. Je l'ai annoncé, donc, un festival dans les Alpes-Maritimes, plus précisément à Saint-Laurent-du-Var. Cela se passe les samedis 27 et dimanche 28 avril à la salle de Boule, donc à Saint-Laurent-du-Var. En parrain cette année, Olivier Norek, qui sera donc entouré par une trentaine d'auteurs, des auteurs français, des étrangers. Bien évidemment, des tables rondes et des séances de dédicaces, on peut rencontrer et discuter avec pas mal d'auteurs. Il y a aussi une enquête urbaine pour découvrir ou redécouvrir Saint-Laurent-du-Var, un concert de jazz et plein d'autres surprises. Rendez-vous pour le programme complet, le nom de l'ensemble des auteurs et de toutes les animations sur le site de la mairie de Saint-Laurent. Vous aurez ainsi tous les détails du programme, où je pense qu'aussi sur l'office de tourisme, ça doit marcher aussi. Et, précision, nous y serons. Comme je vous l'annonçais, on va aussi parler d'une nouvelle collection. Ou plutôt une renaissance. Un phénix qui renaîtrait de ses cendres.
Un phénix noir.
Voilà. Une collection, La Noire, chez Gallimard, créée en 1992 par Patrick Reynal. Exit en 2005. Elle réapparaît donc chez ce même éditeur, donc chez Gallimard, avec une nouvelle charte graphique. À l'époque, cette collection se voulait la version noire de la blanche, la fameuse NRF de chez Gallimard, et elle accueillait des romans noirs, des romans à la marge du polar, et on découvrait avec délice et grande satisfaction James Crumley, Ledesma l'espagnol, Larry Brown l'américain, ou encore Rollo Diez l'argentin. Ça permettait aussi de redécouvrir Raymond Chandler et Jean-Patrick Manchette. Aujourd'hui, Marie-Caroline Aubert et Stéphanie Delestré relancent cette collection et Antoine Gallimard, le grand patron, annonce « La Noire a pour vocation d'accueillir des romans dits noirs destinés à un lectorat plus éclectique, préoccupé d'une esthétique avant de l'être d'une thématique. Plus littéraire pourrait-on dire ?» Fermez les guillemets. Bon, nous, on n'est pas trop d'accord quand même avec M. Gallimard.
Sur le plus littéraire, en tous les cas.
Non, sur le plus, même le lectorat, parce que je trouve que le lectorat des romans noirs, c'est très, très éclectique, parce que ça fait des années qu'on vous parle de romans noirs très, très bien écrits et très littéraires. Mais on ne boudera pas notre plaisir et on est très content de voir cette nouvelle collection. Cette nouvelle collection. Dans l'année, ça va être une collection rare, puisque 5 titres sont annoncés par an. Les 3 premiers sont plus qu'alléchants. Et pour terminer cette première partie d'émission, nous allons tour à tour, Jacques et moi, vous parler des 2 romans inédits qui inaugurent cette collection, l'un de Ron Rash et l'autre de William Gay, 2 écrivains américains. Troisième texte, le très beau texte d'Hervé Prudhon, Nadine Mouk, qui a été initialement publié en série noire en 1995, un superbe texte à l'écriture ciselée, inventive, mais je précédais mon mot suivant, poétique, parce qu'on pense souvent à la poésie quand on lit les textes d'Hervé Prudhon.
On en reparlera peut-être dans les prochaines.
Ah oui, émission. J'espère bien, et c'est un texte aussi complètement désespéré, mais ça c'est la marque d'Hervé Prudhon, mais du grand noir. Je vais donc vous parler du dernier roman de Ron Rash, traduit par Isabelle Reynarès, et le titre de ce roman, c'est « Un silence brutal ». Ça inaugure donc cette collection. C'est le 5e roman de l'écrivain américain, et le cadre ne change pas. Nous voilà du côté des Appalachies, entre mer et montagne, en Caroline du Nord. 2 J-E dans ce récit. 2 personnes qui vont prendre la parole tour à tour. On a d'abord le shérif, Les, à quelques semaines de la retraite. Il conserve les valeurs qui permettent de survivre dans ces contrées. Le travail, l'amitié, la fidélité. Surtout le respect des lieux et enfin le respect de ses habitants. L'autre je reprécise, c'est Becky. C'est une poétesse et elle traîne beaucoup, beaucoup de violence derrière elle. On pressent, on voit de temps en temps apparaître dans ses souvenirs une tuerie de masse, comme en ont l'habitude les Américains, dans ses lambeaux de mémoire qu'elle transforme petit à petit en mots couchés sur le papier, ou plus souvent en silence, lorsqu'elle file au milieu, je cite, des eupatoires rugueuses et du sumac, plus loin renouées et scutellaires casquées. Au-dessus de sa tête, hêtre et boulou, chêne rouge et noyer blanc. Trouant l'épaisseur de la canopée, des échasses de soleil arpentent le sol. Becky, qui a choisi de se réfugier dans la nature, mais aussi et surtout dans le silence. On apprendra qu'elle s'est réfugiée dès son enfance dans le silence et qu'elle a été plus ou moins recueillie par ses grands-parents. Elle se retrouve aussi dans la beauté des mots d'un poème. Donc ces deux personnages, Les, le flic, Becky, la poétesse, c'est pas souvent d'ailleurs d'avoir des duos de cet acabit dans les romans, mais là ça va très bien. Et ce duo va donc être confronté au bruit et à la fureur, au fracas du monde moderne. D'abord, par le biais des trafics de drogue, le monde sordide qui pue la misère et la mort du deal de méthamphétamine, les meths comme on dit. Et puis, bruit et fureur aussi du monde de l'économie moderne, le profit avant tout, des propriétaires terriens, locaux, qui sont devenus très âpres gains et qui défendent, à coups de poing et de fusil s'il le faut, l'industrie touristique qu'ils ont créée et qu'ils espèrent voir prospérer autour de la rivière, parce que la rivière, c'est important dans les romans de Ron Rash. Alors, quand un bout de la dite rivière est empoisonné et que le vieux Gérald est accusé, eh bien Les et Becky vont joindre leurs forces pour défendre le vieillard. Et on va voir se confronter l'ancien monde et ses valeurs qui vont peut-être devoir s'incliner avec les lambeaux d'une société déchiquetée, tout à la fois par la misère, mais aussi par l'enrichissement de quelques nantis. Comme je le disais, il y a toujours de l'eau dans les romans de Ron Rash. Une rivière, dans la plupart des cas. L'eau, c'est connu pour rappeler à l'homme ses origines aquatiques. Pour rappeler ce temps où l'être humain n'existait d'ailleurs pas sur Terre. Que peut répondre l'écrivain face à cette violence et aux armes qui tuent les enfants? Ben, curieusement, Ron Rash semble nous dire le silence. Ou bien peut-être une feuille de papier où l'on n'a rien écrit. Puis dessine une forme, un calligramme apparaît. La poésie sauverait-elle le monde? C'est ce que semble penser Ron Rash. Et je dois bien le dire, un petit peu moi aussi. Donc je vous rappelle, ce roman inaugure la collection La Noire chez Gallimard. Il s'appelle Un silence brutal. L'écrivain en est Ron Rash et c'est excellemment bien traduit, en particulier tous les mots de la nature, toutes ces espèces végétales et animales, c'est assez impressionnant. Excellemment bien traduit donc par Isabelle Reynarez.
Voilà, et si vous voulez le repérer, la couverture est toute noire, à deux tons de noir, et il y a en bandeau une truite, je suppose, enfin un poisson en tous les cas, je ne suis pas assez expert. Mais
la truite des rivières, voilà. Tout à fait. A trout.
A trout, exactement.
Un petit peu de musique, Jacques.
Oui, on ne va pas du tout écouter la truite, ni de Schubert, ni de rien d'autre. On va plutôt écouter un morceau de country, parce que la country, c'est...
La country,
c'est la musique qu'écoutent les personnages de Ron Rash et ceux de William Gay, dont je vais parler juste après.
Or, Ron Rash, c'est très éclectique, hein. Il y a aussi du rock, hein.
Et donc, bah là aussi, mais bon, surtout quand même, la radio, c'est beaucoup la country. Et donc, on va écouter un morceau de Ernst Tubb. C'est pas ce qui date d'un certain temps, ça gratte un petit peu. Le morceau est choisi d'ailleurs par un des personnages de William Gay. Ça s'appelle « Let's say goodbye like we said hello ». Bon, en gros...
Dis-le en français, je pense que ce sera mieux pour
voilà,
l'accent.
Mais disons-nous au revoir comme on peut se dire bonjour. Donc, Ernst Tubb.
Let's say goodbye like we said hello in a friendly kind of way. There's something wrong, your love is gone. I've no reason now to stay. We live and love, we meet and part, then broken hearts must pay. Let's say goodbye like we said hello in a friendly kind of way. Your love, sweetheart, I won't forget. You're always on my mind. You're all the happiness I knew, so thoughtful, sweet, and kind. For old time's sake, I'm asking you to think of me someday. Let's say goodbye like we said hello in a friendly kind of way.
Happiness, sweetheart, in everything you do. May good luck always come your way and every dream come true.
I'll remember you and the love we knew, the love of yesterday. Let's say goodbye like we said hello in a friendly kind of way. If I should meet some other dear and learn to love them too, I hope and pray somehow, sweetheart, they'll make me think of you. A tender smile, an old love song, a heart so light and gay. Let's say goodbye like we said hello in a friendly kind of way.
Donc voilà, après cette petite parenthèse country, on va donc parler du livre de William Gay qui s'appelle Stone Burner, qui est donc paru dans la collection La Noire et qui est traduit par Jean-Paul Gracias. Alors si c'était un roman, un western spaghetti, ce roman aurait pu s'appeler Les deux vétérans, le salopard et la garce. Les deux vétérans, c'est Thibaudeau et Stone Burner. Ce sont des vétérans revenus du Vietnam. On est dans les années 70, ils sont revenus fracassés aussi bien dans le corps que dans l'âme. Le salopard, c'est Cape Holder, notable du patelin, on est dans le Tennessee, ancien shérif et véritable trafiquant de drogue notamment. La garce, la belle garce devrais-je dire, c'est Cathy Misham, blonde, bronzée, courte vêtue, pas farouche, des airs de poupée de porcelaine, nous dit William Gay. Elle est aussi sacrément déterminée. Angus Starr, il y a une magnifique Cadillac Eldorado, 5,70 m de long, noire comme la nuit du Texas. Elle aurait appartenu à Elvis, selon les boniments du vendeur d'occasion qui va la céder, enfin la céder, moyennant finance à Thibaudeau. Vous ne pouvez pas la louper, en fait elle est sur le bandeau qui ceint la couverture noire. Ce ne sera pas la seule bagnole. Les protagonistes vont abattre des milliers de kilomètres et il faut de la ressource. Des pick-up en pagaille, dont un avec des cornes de taureau sur le capot, il n'y a qu'aux États-Unis qu'on peut voir ça. Et aussi une Cadillac de ville blanche, qui est comme une angélique vision en négatif de la Cadillac Eldorado noire.
Mais revenons... J'aime bien la vision angélique des voitures.
Ah, ben c'est, on est quand même aux États-Unis, les voitures c'est important. Hein. Vu les kilomètres qu'ils font, ils ne peuvent pas se déplacer à cheval.
Ah ben, ils l'ont fait. Hein.
Ils l'ont fait. Revenons à nos héros. Alors en fait, ça commence. Une valise contenant une forte somme d'argent qui doit servir à payer une livraison de drogue et la belle Cathy appartiennent à Cape Holder. Il tient beaucoup à l'un, à l'une comme à l'autre. Thibaudeau, lui, donc cet ancien vétéran, il est un peu lassé de vivre dans son mobilhome pourri. Il va récupérer la valise et s'enfuir avec la belle Cathy. Cape Holder est plutôt énervé. Et il va demander à Stoneburner, qui est entre-temps devenu vaguement détective privé, de poursuivre et de rattraper son compagnon d'armes et de ramener la blonde et le contenu de la valise. Ils vont, tous les trois et même plusieurs autres, traverser plusieurs états, dans tous les sens du terme, le tout rythmé par la musique des stations de Radio Country qui s'échappent des autoradios ou des jukebox des rades dans lesquelles ils boivent des coups. Cela pourrait être une histoire banale s'il n'y avait pas l'écriture de William Gay. Des cours ou plus longs passages poétiques et ses descriptions. Au tout début, Stone Burner épie ses deux proies. La femme est apparue dans l'encadrement, ses cheveux blonds auréolés par l'éclairage intérieur. Ils entrèrent tous les deux, la porte se referma. Stone Burner arrêta les essuie-glaces et le décor devient flou et éphémère. Pareil à une toile paysagiste qu'on aurait jetée dans l'eau. Ou encore un peu plus loin.
Il faut que je meuble le temps que
non, c'est bon.
Non, ça va.
Je suis remonté dans mon pick-up pour regagner ma cabane et j'ai dîné sur la terrasse derrière. J'ai écouté un moment une station qui diffusait de la musique country, puis j'ai éteint la radio. Un concert de cigales, véritable muraille sonore, s'est rué vers moi pour colmater le silence.
Colmater le silence, quelle belle expression.
Ou encore un tout petit peu plus loin.
C'est bien, ça pourrait aller dans le Ron Rash aussi.
Et oui, il me semblait. Là, c'est un peu moins poétique, encore que. Red gisait sur le dos, sous les myrtilles, l'eau froide de l'hiver tombant goutte à goutte sur ses yeux aveugles avant de glisser le long de ses joues et de traverser ses boucles trempées et de rejoindre les autres fantômes des sources minérales.
Là, c'est le bruit de la page qui tourne. Bon,
si on accepte Cape Holder, l'auteur aime bien ses personnages déglingués. Il les met dans des situations pas possibles, leur fait prendre des coups qui font mal, les bouscule, mais il les aime bien. Ce qui n'empêche pas de dire de Cathy à un moment...
La page qui tourne. Ah, mais on fait le bruitage, nous ne reculons devant aucun sacrifice dans cette émission.
La vérité incontournable, c'est que Cathy est une garce, je l'ai dit au début. C'est même la garce incarnée. Réduis-la à la taille d'un chromosome, regarde-la au microscope et tu verras une garce miniature lever les yeux vers toi en souriant. Mais je ne m'en plains pas, je ne fais qu'énoncer une évidence. Dès le début, je savais à quoi m'attendre. C'était une petite garce carnivore quand elle têtait sa mère, une garce en crinoline quand elle tenait la main de son père pour aller à l'église.
Voilà, il est... Amie féministe, bonjour.
Ah ben, faut dire qu'elle ne fait pas beaucoup pour...
Pour la cause.
Pour la cause féminine. Sauf qu'elle est déterminée à avoir ce qu'elle veut, et je ne peux pas vous dire si elle l'aura, parce que c'est compliqué. En fait, donc, le retour de la noire commence très bien avec ce voyage au cœur de l'Amérique profonde, des petits patelins, des diners sordides. Et aussi, on ne l'imagine pas, mais il peut faire sacrément froid au Texas. Je vous laisse donc avec ce Stone Burner de William Gay, traduit à la noire par Jean-Paul Gracias.
On se retrouve dans quelques minutes après la page d'info.
Named Ramblin' Bob. He used to steal, gamble, and rob. He thought he was the smartest guy around. Well, I found out last Monday that Bob got locked up Sunday. They've got him in the jailhouse way downtown. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. Well, I told him once or twice to stop playing cards and a shooting dice. He's in the jailhouse now.